Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 23 juillet 2014, en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Alverson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition en RDC, 24 heures après l'attaque du camp Tshatshi à Kinshasa, beaucoup de questions demeurent pour les Kinois.
Le vrai problème qui se pose, c'est d'essayer de comprendre comment un espace comme celui-là, qui est très bien gardé, peut faire l'objet de attaques de ce genre. Donc c'est là où on se perd en conjoncture.
Crise centrafricaine, 9 chefs militaires de l'ex-rébellion Séléka sont arrivés hier soir à Brazzaville pour tenter de débloquer les négociations de paix. Actuellement dans l'impasse, le train transportant des corps des victimes du vol de l'avion de ligne malaisien tombé dans l'est de l'Ukraine est arrivé à Kharkiv, ville sous contrôle du gouvernement ukrainien. Crise au Proche-Orient, de nombreux vols à destination d'Israël ont été annulés par de grandes compagnies aériennes d'Europe et des États-Unis. Et vous aurez en fin d'émission l'actualité sportive et la musique. Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les autorités ont affirmé avoir déjoué hier une attaque d'un groupe armé contre un camp militaire de Kinshasa. Le calme était revenu en fin d'après-midi, après environ une heure de tension et de panique dans les rues de la capitale. Jean-Roger Bion.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a déclaré hier qu'un petit groupe a tenté une infiltration au camp Tshatshi, mais l'affaire a été vite réglée, puis la vie a repris son cours normal. La garde républicaine a été déployée en force pour boucler le quartier du palais présidentiel avec plusieurs points de contrôle. Des centaines de soldats armés de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes avaient fait évacuer en urgence l'aéroport international de Ndjili. Cette intervention a été suivie de coups de feu autour du camp Tshatshi, siège du ministère de la Défense. Aucun bilan n'est disponible, mais cette IA avait semé la panique dans la capitale. Kinshasa a déjà été le théâtre d'un apparent coup de force le 30 décembre, lorsque des dizaines d'assaillants armés, essentiellement d'armes blanches, avaient attaqué de manière concertée l'aéroport de Ndjili, le siège de la radio-télévision nationale et le camp Tshatshi. Ces attaques ont été réprimées dans le sang.
Crise centrafricaine, selon l'AFP, 9 chefs militaires de l'ex-rébellion Séléka sont arrivés hier soir à Brazzaville pour tenter de débloquer les négociations de paix pour la Centrafrique qui sont actuellement dans l'impasse. Ouvert lundi, le Forum pour la réconciliation nationale et le dialogue politique en Centrafrique a pris un mauvais tour mardi à Brazzaville, où le chef de la délégation de la Séléka, le général Mohamed Moussa Dafane, a posé comme un préalable à toute discussion l'acceptation du principe d'une division du pays. Toute la journée, les délégués de la Séléka au forum sont restés à leur hôtel. En leur absence, les travaux des commissions sur la cessation des hostilités et sur le désarmement des groupes armés avaient été suspendus dès leur ouverture le matin. Ils ont finalement repris dans l'après-midi pendant quelques heures, toujours sans la Séléka.
En Libye, selon l'AFP, au moins 4 soldats ont été tués dans un double attentat suicide contre une base militaire de l'armée à Benghazi, dans l'Est. L'attaque, perpétrée par 2 kamikazes, visait une caserne des forces spéciales de l'armée libyenne dans le quartier de Bouatni, dans le sud-est de Benghazi, a précisé un responsable de l'armée.
Au Nigeria, le président nigérian Goodluck Jonathan a rencontré pour la première fois des parents des jeunes filles kidnappées depuis le 14 avril par Boko Haram. L'armée envoie des renforts dans le nord-est du pays pour tenter de reprendre Damboa, assiégé par les islamistes.
En Afrique du Sud, la police a dû déloger hier à l'aide de grenades paralysantes Julius Malema et ses partisans qui avaient investi l'assemblée provinciale du Gauteng. Claire Morin-Gibourg.
Selon l'AFP, Julius Malema et 2000 membres de son parti des combattants de la liberté économique protestaient hier contre l'éviction de leurs représentants au motif qu'ils portaient des vêtements d'ouvriers aux sessions législatives. Les élus de son parti avaient porté des combinaisons et des casques rouges pour les hommes et des uniformes de femmes de ménage lors de séances de travail. Ces élus radicaux ont assiégé l'Assemblée de la province et la police sud-africaine les a délogés à coups de grenades paralysantes. Elle a également tiré des balles en caoutchouc sur le manifestant à l'extérieur du bâtiment. La formation de Julius Malema détient 25 sièges au Parlement local. Elle accuse l'ANC au pouvoir d'avoir trahi la confiance des travailleurs noirs depuis qu'il a pris le pouvoir à la fin de l'apartheid il y a 20 ans. Le bouillant Malema, ancien président des jeunes de l'ANC, a été exclu du parti pour indiscipline.
En Tunisie, les inscriptions sur les listes électorales lancées le 23 juin et qui étaient censées se terminer hier ont été prolongées d'une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 29 juillet, Morgane Guiriec.
Quelques 500 000 Tunisiens sont inscrits malgré les nombreux appels les encourageant à participer au prochain scrutin comme réponse aux actes terroristes. Le calendrier électoral prévoit des législatives pour le 26 octobre, le premier tour de la présidentielle le 23 novembre et le second tour le 28 décembre. Certains partis estiment que ce calendrier est trop serré pour garantir la transparence. L'organe chargé d'organiser les élections souligne que la nouvelle constitution impose la tenue des élections en 2014 et ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Le pays attend de se doter d'institutions pérennes depuis la révolution de janvier 2011. L'Assemblée constituante devait être remplacée par un Parlement dès octobre 2012, mais les successions de crises politiques ont ralenti le processus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le train transportant des corps et des enregistreurs de données de vol de l'avion de ligne malaisien tombé dans l'est de l'Ukraine la semaine dernière est arrivé dans la ville de Kharkiv sous contrôle gouvernemental. Des détails avec Issia Kaba.
La plupart des dépouilles sont arrivées mardi à Kharkiv à bord d'un train réfrigéré, mais des fragments de corps se trouvent encore sur le site du crash non sécurisé, a indiqué la mission d'observation de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les rebelles pro-russes accusés d'avoir abattu l'appareil avaient déclaré lundi que 282 corps et des fragments de 16 autres étaient à bord du train. Mais le chef de l'équipe médicale légale néerlandaise, Jan Twinder, qui s'est rendu à Kharkiv, a déclaré que les wagons réfrigérés ne contenaient que 200 corps. Les Pays-Bas observeront ce mercredi un jour de deuil national en accueillant le retour des premiers corps des victimes du crash du vol MH17 en Ukraine. L'Union européenne prépare de nouvelles sanctions ciblées contre la Russie et les États-Unis affirment vouloir publier bientôt des données de renseignement de l'attentat du vol MH17.
De nombreux vols à destination d'Israël ont été annulés hier par plusieurs grandes compagnies aériennes d'Europe et des États-Unis. Une décision qui intervient après la chute d'une roquette à proximité de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. L'État hébreu a réagi en disant qu'il n'y avait aucune raison pour ces annulations. Jacques Aristide.
L'Agence fédérale de l'aviation, la FAA, a interdit aux avions des compagnies américaines de voler vers ou depuis Israël pour une durée de 24 heures. D'autres grandes compagnies comme Air France, Lufthansa, Brussels Airlines, EasyJet ou Air Canada lui ont immédiatement emboîté le pas. Dans une note, la FAA explique sa décision par la situation potentiellement dangereuse due au conflit armé entre Israël et le Hamas à Gaza. Pour sa part, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a indiqué qu'elle allait également recommander à l'ensemble des compagnies européennes, au plus tard ce mercredi, de ne plus desservir jusqu'à nouvel ordre l'aéroport international de Tel Aviv. De son côté, le ministre israélien des Transports a affirmé qu'il n'y avait aucune raison pour que les compagnies annulent leurs vols vers Israël, rapporte l'AFP, et d'indiquer que le ministre Israël Katz a téléphoné hier soir aux compagnies américaines pour leur expliquer que le décollage et l'atterrissage à l'aéroport Ben Gurion ne présentaient aucun problème de sécurité, ni pour les appareils, ni pour les passagers.
Et ajoutons que le milliardaire américain Michael Bloomberg a annoncé hier qu'il prenait l'avion pour Tel Aviv en solidarité avec Israël et il a appelé les États-Unis à permettre aux compagnies aériennes américaines de desservir à nouveau l'État hébreu.
En Irak, l'explosion d'une voiture piégée a tué 23 personnes et blessé plus de 40 autres à un barrage de police dans le quartier chiite, dans le nord de Bagdad. Personne n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque mardi dans le district de Qadimiyah. Hier également, des informations ont fait état de frappes aériennes gouvernementales irakiennes ayant tué 19 personnes au cours des deux derniers jours dans la ville sunnite de Fallujah, sous contrôle des islamistes.
En Italie, 5 migrants ont été arrêtés par la police de Messine en Sicile, accusés d'avoir assassiné leur compagnon de voyage vers l'Europe après la découverte d'une trentaine de cadavres dans un bateau pour les secouristes maltais et italiens. Le paquebot, grand comme deux fois le Titanic, entamera alors son ultime voyage vers les chantiers navals de Gênes dans le nord-ouest italien, où il sera démantelé.
En Indonésie, le candidat malheureux à la présidence, Prabowo Subianto, va saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats entachés selon lui de fraude. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un porte-parole au lendemain de la proclamation officielle de la victoire de son rival, Joko Widodo.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Alberson. Il est 5h41 en temps universel, 1h41 ici à Washington, à Kinshasa. 24 heures après l'attaque du camp Tchatchi, beaucoup de questions demeurent pour les Kinois. Comment ce camp a-t-il pu à nouveau être la cible d'une attaque alors qu'il abrite l'état-major des forces armées de la RDC? Joint par la Voix de l'Amérique, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, affirme que les autorités cherchent à déterminer les motivations des assaillants. C'est en tout cas une affaire bien louche pour notre confrère du journal Le Phare, Poulidor Mouboyayi. Nicolas Pinault l'a joint à Kinshasa.
Vous savez, l'incident qui s'est produit ce mardi ressemble à ce que nous avons connu hein, il y a quelques mois déjà. Hein, au mois de décembre, on a eu une attaque de même type hein, qui était perpétrée par des hommes qui se réclamaient du pasteur Mukungubila. Le vrai problème qui se pose, c'est d'essayer de comprendre comment un espace comme celui-là, qui est très bien gardé, peut faire l'objet d'attaques de ce genre. Donc, c'est là où on se perd en conjoncture. Et on voudrait bien comprendre exactement ce qui s'est passé, et surtout, qui se trouve effectivement derrière. Nous avons appris effectivement qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées et qu'on est occupé à les identifier pour essayer de comprendre ce qui se passe effectivement.
Est-ce que cela ne repose pas l'éternelle question de la réforme du système de sécurité en RDC?
Surtout la réforme du secteur de l'armée. C'est l'un des points principaux qui ont été retenus lors du dialogue de Sun City. C'était l'une des priorités dont devait se charger le gouvernement issu des accords de Sun City. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Les ex-belligérants se sont servis. Hein. Ils ont donné des chiffres qui n'étaient pas vrais. Chacun a eu tendance à gonfler ses effectifs tout simplement pour pouvoir gérer un peu plus d'argent et améliorer son compte en banque au lieu de s'occuper des questions essentielles. Donc ces problèmes-là, justement, reviennent à la surface. Et il est important, effectivement, qu'à la faveur de ce type d'incident, c'est un rappel parfois douloureux, mais un rappel tout de même qui est fait aux responsables du pays pour qu'on se rende compte qu'effectivement, la sécurité du pays ou le développement du pays ne peut pas être assuré si la sécurité et les questions essentielles de sécurité et de défense nationale ne sont pas menées à bon port. Donc, nous pensons que cette alerte qui a encore une fois sonné ce matin va pouvoir essayer de jouer un rôle de coup de fouet pour que ces questions-là reviennent sur le tapis et que la priorité leur soit accordée.
Voilà, c'était notre confrère quinois, Poulidor Mbouyaï, joint à Kinshasa. Sénégal, nouveau rebondissement dans l'affaire du livre du colonel Abdulaziz Ndao. Le gouvernement a décidé de rappeler à Dakar l'actuel attaché militaire à Rome, car selon l'État sénégalais, l'officier a violé l'obligation de réserve. Dans ce livre, le colonel Ndao, numéro 2 de la gendarmerie, dénonce des malversations au sommet de ce corps. Djeneba Seydouba est la correspondante de la Voix de l'Amérique à Dakar.
Le gouvernement sénégalais se prononce enfin sur le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao par la voix du ministre des Forces armées, Augustin Tine.
Le colonel Abdoulaye Aziz Ndao a violé une obligation fondamentale qui pèse sur l'ensemble du personnel des forces armées.
Selon le gouvernement, il est établi que le colonel Ndao a violé l'obligation de réserve.
Cet officier a commis de graves fautes disciplinaires, une trahison, une révélation de secrets classifiés défense ou pouvant porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation et au au moral des militaires.
Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, le gouvernement a pris des mesures. Parmi elles, le rappel à Dakar du colonel Ndao.
Le colonel Ndao devra répondre des conséquences de ses actes au plan disciplinaire. L'inspection générale des forces armées sera saisie pour enquêter sur les allégations du livre et en tirer toutes les conséquences de droit. Les personnes mises en cause dans ce livre se réserveront le droit d'ester en justice.
Le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, intitulé « Pour l'honneur de la gendarmerie », continue de secouer l'État et la gendarmerie. Dans ce brûlot, l'officier dénonce certaines pratiques. Le numéro 2 de la gendarmerie nationale révèle des malversations à la tête de la gendarmerie, visant l'ancien commandant en chef de ce corps, le général Abdoulaye Fall, surtout dans la gestion du dossier Casamance. Le colonel Abdoulaziz Ndao, actuel attaché militaire à Rome, a été rappelé, mais il ne s'est pas encore présenté. Yenaba Seydouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Fayda à Kaolack.
Les États-Unis et le Conseil de sécurité dénoncent les récentes mesures prises par l'État islamique contre les minorités religieuses et les chrétiens en Irak. Dans ce califat proclamé, il est demandé aux chrétiens et aux autres non-musulmans de se convertir en islam, payer un impôt spécial, partir ou être exécuté, un choix difficile. Félix Yepassis Zembrou.
Marie Harf, porte-parole du département d'État, dénonce la déclaration de l'État islamique qui concerne les chrétiens, les chiites, les kurdes yazidis et les shabaks.
We condemn in the strongest terms the systematic persecution of ethnic and religious minorities by ISIL.
Nous condamnons dans les termes les plus vigoureux la persécution systématique des minorités ethniques et religieuses par l'État islamique en Irak et au Levant. Nous sommes particulièrement indignés par l'annonce récente faite par l'État islamique disant que tout chrétien de Mossoul doit se convertir à l'islam, payer une taxe, quitter ou être exécuté dans les prochains jours. Il est clair que cela montre davantage que la mission de l'État islamique est de diviser et détruire l'Irak et qu'ils n'ont absolument aucune place dans le futur de l'Irak. Nous ne saurions être plus clairs. De son côté, le Conseil de sécurité a à l'unanimité dénoncé la persécution systématique des individus, des minorités et de ceux qui refusent l'idéologie extrémiste. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, est allée dans le même sens, condamnant la déportation forcée des chrétiens sous la menace d'exécution. Iyad Amen Madani, secrétaire général de l'OCI, accuse un groupe terroriste menant des pratiques contraires aux principes de l'islam. Des centaines, voire des milliers de familles chrétiennes ont fui Mossoul, où les chrétiens vivaient depuis plusieurs siècles. Le groupe Open Doors, qui surveille la persécution des chrétiens, affirme que plusieurs familles ont choisi de rester et payent une taxe. Ceux qui ont choisi de partir ont été arrêtés à des postes de contrôle et ont été dépouillés de tout. Leur argent, leurs bijoux, téléphones mobiles et même les médicaments ont été confisqués. Greg Barton du Centre pour l'Islam et le Monde Moderne à l'Université Monash en Australie. Nous avons vu une persécution rampante de chrétiens à travers le Proche-Orient par des tenants de lignes dures ou des gouvernements qui n'en font pas assez pour confronter ce phénomène. Maintenant, ça atteint le sommet dans le califat de l'État islamique. Il ajoute que le concert de condamnation internationale n'aura aucun impact sur les djihadistes et pourrait même servir à autre chose. Cela va aider des voix qui s'élèvent à Bagdad pour appeler un nouveau gouvernement irakien à avoir une position de principe. Ce serait plus facile pour les chrétiens qui fuient Mossoul et d'autres villes du nord de trouver refuge à Bagdad, mais malheureusement, nous avons vu cette dernière décennie beaucoup de persécutions à Bagdad et on peut imaginer que bon nombre d'entre eux vont quitter le pays s'ils le peuvent. Pour cet analyste, c'est aux dirigeants de l'État islamique de décider de mesures moins radicales qui pourraient les aider à gagner le soutien des sunnites modérés, sinon l'application stricte de la charia pourrait dresser les populations contre leur nouveau maître.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Malgré l'avancée des traitements dans la lutte contre le sida, la stigmatisation demeure pour les malades une problématique à aborder lors de la 20e conférence internationale sur le sida à Melbourne, en Australie, et dans un documentaire de La Voix de l'Amérique. Michel Joseph nous en dit plus.
Dès l'apparition du virus du sida dans les années 1980, la maladie s'est très vite accompagnée de stigmatisation. Deux groupes en particulier, les homosexuels et les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse. 30 ans plus tard, le visage du sida a changé. Aujourd'hui, les nouveaux malades sont statistiquement plus susceptibles d'être des femmes africaines hétérosexuelles. La stigmatisation du sida demeure du Cambodge au Nigeria en passant par l'Ouganda. Il persiste aussi en 2014 dans les pays développés comme les États-Unis et le Canada, affirme le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses.
In the United States, a developed nation, there is still, as shown on the film.
Aux États-Unis, un pays développé, il y a encore, comme le montre le film, même dans la ville où je vis, une stigmatisation considérable, parfois très subtile, qui empêche les gens de recevoir des soins appropriés au moment opportun. Donc, cela a beaucoup de conséquences. Au Nigeria, où il est interdit par la loi d'être homosexuel, Afagenu Kelly Orazulike, un militant homosexuel, nous dresse un sombre tableau de la stigmatisation entre sida et homosexualité.
It's incredibly amazing how we have lived through the work that we do in Nigeria.
Il est incroyable de voir comment nous avons vécu grâce au travail que nous faisons au Nigeria et comment nous avons pu survivre, c'est-à-dire permettre l'accès aux services de santé et à la justice sociale. Parce que survivre un jour devient plus effrayant que le jour précédent. La stigmatisation non seulement des patients, mais des professionnels de santé également. Le docteur Julio Montané travaille dans le secteur depuis des décennies et affirme que la stigmatisation empêche certaines avancées. Il décrit par exemple sa lutte pour obtenir l'approbation du gouvernement pour mettre en place un site sécurisé d'échange de seringues pour les utilisateurs de drogue à Vancouver, au Canada. Déjà, nous souffrons d'une stigmatisation par association. Je ne vois pas trop mon ami cardiologue à qui l'on demande « Pourquoi faites-vous ce travail ?» Qu'est-ce qui vous motive à faire ce travail? Pourquoi êtes-vous si passionné? Je veux dire, les gens acceptent qu'être cardiologue, c'est être passionné par les maladies cardiaques. Mais nous, on demande tout le temps, comment diable vous souciez-vous de personnes qui utilisent des drogues? Montané n'a pas de réponse à cette question. Pourquoi, dit-il, doit-il se justifier, plus que tout autre médecin, sur le traitement de toute autre maladie? C'est l'une des nombreuses questions qui hantent ce virus mortel et continue de sévir dans la lutte contre le sida.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports et j'accueille Nicolas Pino. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football, le choc au Burkina Faso pour les demi-finales de la Coupe du Faso.
À suivre ce mercredi, la première demi-finale entre le Racing Club de Bobo Dioulasso et l'Union Sportive de Ouagadougou. L'autre rencontre opposera l'AS Fayenega à l'Étoile Filante de Ouagadougou. Présentation de ces matchs avec Salif Kabore, notre correspondant à Ouagadougou.
Le RCB, premier club de Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays au classement du championnat de première division avec sa quatrième place, sera face à l'Union Sportive de Ouagadougou, un club basé à Ouagadougou dans le quartier Larlé, occupant la 10e place du championnat après 29 journées de compétition. La Coupe du Faso est donc un enjeu majeur pour les deux équipes. À défaut donc du titre national, les deux clubs ne veulent pas terminer la saison les bras ballants. Car à la clé, il y a probablement une place à prendre en campagne africaine, mais tout dépendra. Pour y parvenir, l'Union Sportive de Ouagadougou a éliminé en quart de finale Majestic au tir au but par 5-3 à la suite du 0-0, alors que le Racing Club de Bobo Dioulasso a éliminé le club militaire Lusfa par 1-0. L'autre demi-finale va opposer l'Étoile Filante de Ouagadougou à l'AS Fayenega. Lors de l'édition précédente, les deux équipes rivales du Burkina Faso s'étaient retrouvées à ce même stade de la compétition et l'AS Fayenega avait éliminé l'Étoile Filante de Ouagadougou par 1-0. L'étoile filante de Ouagadougou détient 19 trophées de Coupe du Faso et le dernier remonte en 2011. Quant à l'AS FAR Yenega, son dernier sacre en Coupe du Faso date de 2013 et c'était devant l'AS Sonabel, le club de la Société Nationale Burkinabé d'Électricité, sur la note de 2-1. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Et Nicolas, en bref, dans la rubrique transfert.
Oui, le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, James Rodriguez, quitte Monaco. Pour 80 millions d'euros, le Colombien s'engage avec le Real de Madrid. Une belle somme pour un joueur de 23 ans seulement. Et puis, comme annoncé lundi, Dunga a été intronisé hier à la tête de la sélection brésilienne. Le capitaine du sacre de 94, mais sélectionneur de l'échec de 2010, aura pour mission de relancer la Seleção après l'échec de la Coupe du Monde.
Enfin, la 16e étape du Tour de France en cyclisme.
Oui, l'Australien Michael Rogers a remporté l'épreuve du jour à Bagnères-de-Luchon dans la première des trois journées pyrénéennes. L'Italien Vincenzo Nibali a conservé le maillot jaune de leader au terme de cette étape la plus longue de l'épreuve, 237,5 km.
Après les sports, on passe à la plage musicale avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi, bonne nouvelle pour vous et tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique. Mokobé est de retour. Le MC du 113 présente finalement ses doudets, son nouveau single.
C'est doudé.
C'est doudé.
Ça c'est doudé.
C'est moi qui est doux.
Oh, laisse-moi.
Non.
Ça c'est doudé.
C'est moi qui est doux.
Je te dis que c'est doudé.
Madame, c'est moi qui est doux.
Ça là, c'est doudé.
Bon, ok. C'est
doudé.
C'est doudé.
La vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Entre l'espoir et la crainte, c'est pas facile. Toucher nos rêves, tant que possible. Accroche-toi, ne baisse pas les bras, tout est possible. Parfois on s'isole, on s'exile, on aimerait être seul au monde comme Tom Hanks sur une île. Sauve ton cœur, laisse parler, avance, rien ne sert de courir après le passé. Caresser l'espoir, c'est douter. Savourer une victoire, c'est douter. Un mariage, une naissance, un baptême, un ami, tout ce qu'on partage, c'est douter.
Et pour son grand retour, hein, Mokobé a bénéficié du soutien de ses collègues rappeurs Mac Tire et Soprano.
Si ça, Bagassi, fidèle à ses ambiances africaines, Moko envoie un son qui sent bon l'été. Et petite précision, non de moindre, il a annoncé que tous les fonds récoltés avec la vente de ce single seront remis à l'association caritative Soul Smile for the Orphans in the World. Et son action, un repas pour tous.
Mokobé, c'est doudé. Merci Roger.
De rien Bagassi, merci à tous nos fidèles auditeurs à Ouaga.
Roger Muntu que vous retrouvez chaque jour dans RM Show à partir de 20h temps universel.
De justesse, qu'on a beaucoup de faiblesse. Mon résiste est buté. Serre l'écoute, c'est doudé. Ensemble on relève les défis. C'est la raison de notre réussite. C'est maintenant jamais la vie, on va la slatanée. Let's go.
Voilà, c'est Douda, c'est sur ces mots donc de Mokobé que s'achève notre édition du jour. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.